Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Moudimaï, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. À 10 jours de la tenue des élections combinées présidentielles, législatives nationales et provinciales, la campagne électorale se poursuit à travers le pays. Si vous étiez candidat et venez d'être élu, quelles seraient vos priorités sur la question relative à l'accès à l'emploi, à l'éducation pour tous? À l'adresse pa@radiookapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 6449 pour votre intervention en direct. Et notez que vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Madame Mami Mujinga, vous êtes en ligne. Madame Malaika également. Nous allons vous accorder la parole d'un moment à l'autre. Le temps de dire merci à toute l'équipe qui concourt à présent à la production de cette émission. Jean-Claude Siala, Pierre et Lamégi, Nico et Kalambay, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ces magazines vous êtes coordonnés, présentés par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Plus de 19 000 candidats à la députation nationale pour 500 sièges à l'hémicycle du Palais du Peuple et encore plus de 15 000 candidats à la députation provinciale pour les assemblées provinciales à travers le pays. 21 candidats présidents de la République, y compris ceux qui ont déjà désisté. Ils sont tous sur le terrain, du moins ceux qui disposent des moyens importants pour sensibiliser et convaincre l'électorat. Et les autres, d'autres personnes, par contre, les font avec une autre approche. Dans leur message, plusieurs promesses pour un Congo meilleur dans cette législature ou dans la législature prochaine. Mais la priorité, qu'on le sache, c'est plutôt la question relative à l'accès à l'emploi et à l'éducation pour tous. Comment cette question est abordée par les candidats? Nous avons en ligne Madame Mami Mujinga. Vous êtes avec nous. Bonjour Madame Mami.
Bonjour.
Alors, si vous êtes candidate et élue, quelles seraient vos priorités sur les questions de l'emploi et de l'éducation pour tous?
Merci beaucoup. La priorité pour moi serait d'abord d'octroyer l'emploi d'une façon équitable, c'est-à-dire tout le monde qui a étudié, qui a son diplôme d'État, on devrait procéder à une offre d'emploi comme on le fait partout ailleurs. Donc, la méritocratie doit primer dans notre pays. Nous avons remarqué que même si vous êtes intelligent, même si vous avez terminé, même si vous êtes trop brillant, mais du fait que vous n'ayez pas de parapluie, que vous n'ayez pas quelqu'un qui peut vous soutenir, qui peut vous booster ou vous connecter, Vous ne pourrez pas avoir du travail. C'est déjà un vice au sein de notre société qui fait que beaucoup d'élites aujourd'hui, nous avons étudié, nous avons fini, mais nous n'avons pas d'emploi. Et même ceux qui ont de l'emploi, pour quel traitement? Donc, le traitement est tellement médiocre. Il n'y a pas une vraie politique de création d'emplois. Il y a chaque année plusieurs étudiants qui terminent et qui sont versés dans les marchés d'emploi, mais qui se retrouvent jusqu'aujourd'hui. Il y en a même qui ont fait 15 ans, 20 ans, depuis qu'ils ont eu leur diplôme.
Oui, mais Madame Mami, on sait que plus de 10 ans maintenant, les l'État congolais, la RDC s'est engagée dans cette réforme du travail en mettant sur pied ce que nous avons appelé l'ONEM, l'Office national de l'emploi, qui au fait encadre les chômeurs pour les orienter vers des opportunités.
Mais monsieur, cette histoire d'ONEM là, c'est une histoire à dormir debout. Parce que dès que vous allez, vous êtes chômeur, on vous demande d'abord d'acheter une carte d'ONEM qui ne sert absolument à rien. Vous achetez cette carte-là à 20$ et jamais, au grand jamais alors, on vous enverra une demande ou une offre d'emploi quelque part. Donc cette histoire-là, C'est une histoire créée pour encore faire souffrir la population qui n'a rien. Parce que vous allez quelque part dans une entreprise où on a lancé une offre d'emploi, on vous dit allez d'abord chercher la carte d'ONEM. Cette carte d'ONEM que vous achetez à 20$, 30$. Et quand vous achetez cette carte d'ONEM, vous revenez avec dans cette entreprise-là, vous faites même les tests comme les autres, mais vous vous retrouvez que vous étiez premier sur la liste, mais vous ne serez jamais engagé parce que vous n'avez pas de soutien d'un politicien.
Donc si je comprends bien, Madame Mamy, en tant que candidate, si vous venez d'être élue, pour vous, vous pensez que l'ONEM n'a pas sa raison d'être?
Non,
et que vous devez commencer par supprimer cela.
Non, cet ONEM n'a pas sa raison d'être. Elle est là encore pour appauvrir la population. Nous tous, nous sommes passés par là. On a terminé les études, on nous a demandé d'aller acheter une carte d'ONEM. On a acheté cette carte d'ONEM. Moi, j'ai ma carte jusqu'à aujourd'hui, mais aucune fois, on ne m'a appelé pour me dire, madame, comme tu étais enregistré chez nous.
Alors comment allez-vous organiser ces secteurs sans l'ONEM?
Mais on va organiser. Il faut d'abord reprendre toutes ces histoires-là. Il faut mettre du sérieux dans toutes choses. Il faut que ces histoires-là, ou ces entreprises-là, comme les ONEM-là, puissent être revus, qu'il y ait des gens sérieux qui peuvent faire quelque chose pour la population.
Donc vous voyez dans cela le problème d'homme et non
oui,
un problème de structure.
C'est un problème d'homme, monsieur. C'est un problème d'homme. Parce que aussi longtemps que notre population aura toujours les mêmes personnes avec les mêmes mentalités, on ne fera jamais rien.
Voilà, donc si je comprends bien, pour vous, vous souhaiterez, si vous êtes candidate et venez d'être élu, vous estimez que pour la question d'emploi d'abord, il va falloir favoriser l'appel à la candidature, publier l'offre d'emploi, favoriser la méritocratie et non le clientélisme et le tribalisme, renforcer en même temps la politique de l'emploi. Vous estimez aussi, en même temps que l'ONEM, qui est comme structure aujourd'hui, n'a pas sa raison d'être, il faut encore retravailler. Et beaucoup de sociétés, là il y a encore des questions qu'on va poser peut-être à d'autres auditeurs qui vont suivre. Mais sur la question de l'éducation aujourd'hui, comment vous allez vous attaquer à ça?
La question de l'éducation, monsieur, vous savez bien que moi je n'ai pas encore été député, mais il y a des lois au sein du Parlement qui ont été votées pour que notre éducation, notre enseignement soit gratuit d'abord pour l'école primaire. Nous avons attendu durant les 7 ans, durant même les 12 ans de cette législature. Les lois sont votées, mais l'applicabilité souffre. Nous avons besoin des gens conscients, qu'ils soient conscients de cette éducation qui dégringole du jour au jour. Ce que nous avons été il y a 20 ans à l'école primaire, c'est vraiment lamentable aujourd'hui. Vous avez notre étudiant ou élève qui termine 6e des humanités, qui est diplômé d'État aujourd'hui, qui va à l'université, qui ne sait même pas écrire une lettre. Ça, c'est quelque chose de déplorable dans notre pays. Nous devons revoir toutes ces histoires-là. Nous devons revoir notre enseignement. Mais pourquoi nous régressons du jour au jour? Non, il faudrait que d'abord...
Est-ce que, Madame Mamy, avez-vous une idée sur...
Ceux qui tiennent cet enseignement, comprennent qu'on soit conscient que sans l'enseignement dans ce pays, tout est voué à l'échec.
Oui, ça c'est de manière théorique. Alors, Madame Mamy...
Ce n'est pas d'une manière théorique.
Madame Mamy...
Nous devons revoir, oui.
Oui, alors de manière précise, est-ce que vous avez une idée sur les taux de scolarisation aujourd'hui?
Non, je n'ai pas une idée précise.
Alors, vous devez commencer par là. Parce que savoir d'où nous venons. Alors, il était question d'abord de savoir d'où nous venons et où nous allons. Parce que si vous n'avez pas une idée claire sur les taux de scolarisation aujourd'hui, parce que nous savons qu'il y a 10-15 ans même, les taux de scolarisation étaient moins, surtout en ce qui concerne l'accès à l'éducation pour toutes les filles. Aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Et vous allez amener encore la barre à quel niveau?
Sur le point de la quantité, mais oui. Sur le point de la qualité, on est devenu plus médiocre, monsieur. Si dans les temps, il y avait 10% de la population qui allait à l'école, aujourd'hui, on est à 60% de la population qui va à l'école. Mais pour quelle qualité? Je vous parle ici de la qualité, monsieur. Comment pouvez-vous comprendre un médecin qui quitte l'université, qui va juste ici en Afrique du Sud, il est refusé parce que son niveau est bas. Qu'est-ce qu'on a fait? En 1970, il n'y avait que 5% qui étaient à l'université, mais c'était des gens qui étaient bien produits par leur capacité de se défendre. Mais aujourd'hui, monsieur le journaliste, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Un universitaire qui ne connaît même pas écrire, un universitaire qui ne sait même pas vous faire une dissertation sans faute. C'est quoi ça? Qu'est-ce que nous produisons? À quoi bon augmenter cette quantité alors qu'en matière de qualité, nous régressons du jour à jour? C'est déplorable. Si notre pays est en train
vous allez vous attaquer beaucoup plus, vous allez lutter pour la qualité de l'enseignement et non la quantité. Merci beaucoup.
C'est la qualité dont nous voulons. Que notre pays soit défendu par les gens dignes. Quand on t'appelle diplômé d'État, qu'on sache que tu es diplômé.
Merci beaucoup.
Quand tu es biochimiste, qu'on sache que tu es biochimiste, tu te défends en chimie, biologie. Ce n'est pas seulement qu'on produit 10 000 diplômés d'État par an, pendant qu'il n'y a que 5 qui peuvent se défendre.
Merci.
Là, on n'a rien fait.
Merci beaucoup, mamie. Merci beaucoup, mamie Mujinga, d'avoir appelé. Et madame Malaika, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Goma. Quelle est votre contribution si vous étiez candidate et veniez d'être élue? Quelles seraient vos priorités sur la question relative à l'accès à l'emploi et à l'éducation pour tous?
Bon, je suis candidate et je suis le numéro 100 à la députation provinciale. Par rapport à l'emploi, moi je dirais ceci. En fait, tout le monde ne veut pas travailler chez l'État congolais. Mais l'État congolais doit faciliter l'entrepreneuriat, doit avoir l'incubateur des entreprises de jeunes. Comme ça, et octroyer des crédits solidaires aux jeunes. Comme ça, ça va aider ceux qui ne peuvent pas travailler chez l'État d'entreprendre. Ça, c'est mon point de vue. Parce que tout le monde ne peut pas travailler chez l'État congolais. Par rapport à l'éducation, nous avons de belles lois. Il faut que ces lois entrent en application. La mise en œuvre de toutes ces lois qui existent, entre autres la gratuité de l'école maternelle et primaire. Et pour les universitaires, parce que moi je suis de l'ADER, dans notre programme, nous voulons que les bourses reviennent, les bourses d'encouragement. Les bourses n'existent plus, on doit octroyer les bourses. Et pour l'école primaire, secondaire, même universitaire, c'est vrai qu'il y a les Minerval, mais on doit bannir toutes ces primes qu'on demande aux parents. Parce que quand on demande toutes ces primes, bon, c'est les sens inverses. Mais les étudiants, si ce sont pour les étudiants, ils pensent être supérieurs aux étudiants.
Madame Malaika, quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, c'est vrai que les législateurs a déjà travaillé sur cette question et même la loi fondamentale a déjà levé cette option. Mais aujourd'hui, le problème, c'est l'application. Est-ce que vous comptez vraiment travailler, si vous êtes député, pour que finalement ça soit effectif?
Oui, c'est ça que nous comptons faire, moi, comme députée provinciale. Nous comptons commencer par là, parce que c'est un problème. Ici, dans la ville de Goma, il y a ceux-là qui ne savent même pas écrire leur nom jusqu'à présent. Ils ne connaissent même pas leur date de naissance. C'est une priorité. C'est dans notre programme.
Voilà, donc pour vous, vous allez mettre ça parmi les priorités, la gratuité de l'enseignement. Oui. Merci beaucoup, Madame Malaika. Madame Gabrielle Bopé, vous êtes à Ilebo. Bonjour. Madame Gabrielle Bopé, vous êtes à Ilebo, bonjour.
Bonjour, bonjour Pierrot, bonjour.
Alors vous êtes à Ilebo au Kasaï, quelles peuvent être vos priorités sur la question de l'emploi et de l'éducation pour tous?
Merci beaucoup Pierrot. Pour l'éducation pour tous, il y a la Constitution. Il y a la Constitution qui demande que l'éducation, l'école primaire soit gratuite. Et ce n'est pas encore fait en République démocratique du Congo. On a essayé de faire dans quelques provinces. Mais si je suis élue, je me battrai pas seule, mais avec les autres collègues qui seront élus, pour que cette loi soit effective, l'application de cette disposition constitutionnelle soit appliquée. Il faut que les enfants aillent à l'école. Il faut que tous les enfants aillent à l'école. Aujourd'hui, il n'y a que les parents et les enfants des parents qui ont des possibilités qui envoient leurs enfants à l'école. Tout le monde peut envoyer les enfants à l'école, surtout les filles. Parce qu'il y a la pauvreté. La maman qui va au champ, chez moi, l'agriculture, c'est l'activité principale des parents, surtout des femmes. La maman qui va au champ préfère aller avec sa fille parce que lui, elle va transporter sur sa tête quelques maïs. Sa fille aussi doit le faire pour pouvoir prendre la famille en charge. Et donc, il faut que les parents aient la possibilité d'avoir des moyens et envoyer les enfants à l'école, les filles et les garçons. Donc, je vais me battre pour interpeller l'exécutif qui n'applique pas les lois. Je ne vais pas les interpeller pour me faire corrompre. Non, je vais les interpeller pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils ne veulent pas appliquer. Et je vais veiller au budget qui sera accordé à l'éducation. Il faut qu'on augmente. Il faut voir dans quelles conditions aussi les enfants étudient. Même les sols, n'est-ce pas? Il faut qu'on construise les écoles. Il faut que l'État prenne en charge les études des enfants. Il ne faut pas que les payent les enseignants. Ça, c'est grave. Si les parents doivent continuer à payer les parents, les enseignants. Et ces parents-là qui doivent payer les parents n'ont pas de l'emploi, n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, la majorité, restent à la maison. Alors, je me battrai pour que les parents aient les moyens. C'est-à-dire, pour que les parents aient les moyens, il faut créer de l'emploi. L'emploi, dans notre pays, il y a les riches et les pauvres. Même si on sait que les riches sont peu nombreux et les pauvres sont nombreux, il faut créer la classe moyenne. Et pour créer la classe moyenne, il faut financer, il faut donner des crédits aux entreprises privées. Si vous avez des entreprises, beaucoup d'entreprises privées, les entreprises vont engager les gens. Et ces gens-là, on va tout faire pour que les salaires soient un salaire décent qui permet à un parent d'inscrire son enfant à l'école et de permettre à l'enfant d'avoir un cursus normal d'études. Et c'est comme ça qu'on peut se battre contre la pauvreté et contre
est-ce que vous pensez comme les autres que le problème de l'éducation aujourd'hui en RDC, c'est la qualité de l'enseignement pour laquelle il faut vraiment il faut se battre? C'est la qualité ou la quantité?
Il y a la qualité. C'est surtout la qualité, parce qu'en fait, si on parle des quantités, c'est bon, on parlait des quantités. Mais dans la quantité, si c'est la petite quantité qui est les enfants qui vont aller, enfin, quel genre de pour l'avenir du Congo? La qualité, c'est un problème. Je suis en train de vous dire que beaucoup de parents n'ont pas les moyens d'inscrire les enfants. Et maintenant, les écoles sont devenues, la plupart sont devenues des établissements commerciaux. N'est-ce pas? Alors, on ne regarde plus la qualité, on regarde celui qui a payé, c'est celui qui passe. Celui qui a corrompu, c'est celui qui passe. Parce que les parents, les enseignants sont pris en charge, sont abandonnés à eux-mêmes. L'État ne prend plus en charge le salaire des...
Voilà, merci beaucoup, madame.
Voulez-vous que...
Donc, si je comprends bien...
Donne une formation de qualité à tous les enfants.
Donc, si je comprends bien...
C'est ceux qui ont donné l'argent.
Si je comprends bien, dans votre lutte, vous allez travailler pour la suppression de cette prise en charge de l'enseignement par le parent.
Oui, pour que ça cesse. Moi, j'ai étudié, et je ne me rappelle pas, j'avais même la bourse, je ne me rappelle pas avoir payé à l'université. J'ai fait l'ISP Gombe à Kinshasa. J'avais une bourse. Parce que je suis passé en deuxième gradué avec 60%.
Voilà.
J'ai payé avec ma bourse. J'étais au home. Je me prenais presque en charge. Les parents pouvaient ajouter un peu d'argent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut avoir les moyens pour envoyer votre enfant dans une université pour un enseignement de qualité. Dans une université de qualité, il faut que l'université.
Merci.
Mais aujourd'hui, c'est impossible.
Merci beaucoup, Madame Gabrielle Bopé, d'avoir appelé Dilebo au Kassai. Albert, vous êtes à Kananga. Merci. Bonjour. Merci. Albert, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. C'est Albert depuis Kananga.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci beaucoup. Je vais un peu relever un problème sérieux, messieurs les journalistes. Souvent, nos candidats nous parlent de bien-être, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'emploi, l'électricité, l'eau, tout ça.
Et si vous, vous étiez candidat et veniez d'être élu, quelles seraient vos priorités sur cette question?
Si j'étais candidat, Tout d'abord, il faut un peu commencer. Nous avons le début. Si moi j'étais candidat, d'abord, la première des choses, de revoir, donc, de soutenir les articles qui se trouvent dans la Constitution. Parce que tout est réglé dans la Constitution. Que ce soit le bien-être de la population, les sociales, tout ça, c'est bien réglé dans la Constitution. Mais comment expliquer, monsieur le journaliste, tout ce qu'on est en train de nous dire maintenant par les candidats, tout ce qu'ils prononcent, l'électricité, tout ça, ça se trouve dans la Constitution. Et parmi ces candidats, il y a les anciens députés, les anciens ministres, ceux-là qui sont aux affaires. Comment ils n'ont pas pu vraiment défendre...
Oui, je reviens encore sur ma question, Albert. Oui. Je reviens sur ma question. Et vous, si vous étiez à leur place, aujourd'hui, candidat, et demain vous êtes élu, comment vous allez résoudre ces problèmes de l'éducation et de l'emploi, tous les défis qui entourent ces deux questions?
Oui, moi, si j'étais candidat, je serais élu le 23 décembre, parce que moi, je serai candidat après cette législature ici, en 2023, où je serai candidat. Pour ce moment, je ne trouve pas qu'il y a du sérieux. Oui, si j'étais candidat, et si je suis élu, en fait, la première des choses, monsieur journaliste, c'est de défendre la Constitution. Parce que si on a la bonne foi de défendre la Constitution, on a la bonne foi de défendre tout ce qui se trouve dans la Constitution, c'est ça, donc, la clé de tout ce qu'on peut prétendre faire, voilà, des promesses. On nous promet des paradis, on nous promet les paris aujourd'hui par les députés, comme si on n'avait pas quelque chose de la Constitution qui devrait vraiment nous apporter le bien-être, qui pouvait nous apporter l'électricité, si on avait la foi d'appliquer tout ce qui se trouve dans les articles qui se trouvent dans la Constitution.
Merci beaucoup. Allez-y.
Oui. Tout d'abord, moi, je serais ce que je devrais dire personnellement, Albert Mwananga. Nous sommes en train, tout ce que moi je vois, c'est de la démagogie, parce que on n'entend rien. On nous promet, on nous dit souvent que cette fois-ci signifie quoi? On ne comprend pas. Cette fois-ci, on va changer quoi? Cette fois-là, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire?
Merci beaucoup, Albert. Vous avez dit que si vous étiez candidat et que vous venez d'être élu, vous allez soutenir les dispositions constitutionnelles sur cette question de l'emploi et de l'éducation. Et là, ça nous rappelle un auteur qui a écrit un livre sur Barack Obama lorsqu'il faisait ses premiers pas en politique en tant que sénateur. Il a été demandé par des vieux sénateurs à ne jamais laisser de côté la Constitution qui devait être pour lui comme une Bible. Et c'est cela que vous recommandez aux uns aux autres, et si jamais vous étiez aussi candidat et venez d'être élu, d'avoir à vos côtés, toujours en main, la Constitution et pour défendre toutes les dispositions constitutionnelles. Merci beaucoup Albert d'avoir appelé des Kananga. Gloire, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Kapi et merci à tous les auditeurs qui écoutent Radio Kapi en ce moment.
Quelle est votre contribution, Gloire?
Bon, je voudrais bien commencer par la deuxième question qui a trait à l'éducation nationale. Mmh. Alors, laissez-moi vous dire que le constat est presque bizarre. Il est très bizarre dans notre pays. Et surtout si on sait que à chaque rentrée scolaire, le gouvernement ou bien le ministère de l'enseignement s'affirme comme objectif l'éducation pour tous. Ça a toujours été l'objectif du système éducatif dans notre pays. À chaque année, à chaque rentrée, mais monsieur le journaliste, l'éducation pour tous, à quel prix finalement? Les parents, il faut poser la question, comment est-ce que les parents arrivent à bien éduquer, à assurer vraiment l'éducation de leurs enfants? Le gouvernement n'a plus d'école aujourd'hui là-bas. Les écoles du gouvernement ne sont pas équipées. Les écoles du gouvernement n'ont pas de très bons enseignements. Alors, vous êtes en train d'appeler l'éducation pour tous. Monsieur le journaliste, l'éducation doit être effectuée dans des écoles de l'État. Donc l'État devrait à tout prix assurer la prise en charge de tous ses élèves, sur toute l'étendue du pays. Maintenant que ces écoles de l'État ne sont pas à mesure de fournir ne fût-ce qu'une éducation de qualité, Comment allez-vous atteindre cet objectif-là de l'éducation pour tous?
Oui, gloire, parce que vous y êtes. Avant 2015, l'objectif de Millénaire pour le développement, c'est ce target-là qui était assigné aux États. Certains États avaient quand même atteint ces objectifs, et d'autres non. Parmi ceux qui ont connu un peu de difficultés, et notre pays également. Aujourd'hui, les ODD comme target aussi d'ici 2020-2030. Alors, la question de l'éducation est encore des mises. Mais avant, nous avons quand même eu, avec l'UNESCO, par rapport au dernier rapport, que les filles ont été envoyées à l'école. En tout cas, il y a eu les taux de scolarité des filles, les taux de scolarisation des filles avaient quand même été revus à la hausse. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a encore des défis qui restent devant nous. Si vous étiez candidat et que vous venez d'être élu, comment allez-vous relever ces défis de l'éducation?
D'accord.
Est-ce qu'en supprimant la prise en charge des parents, des enseignants par les parents, ou bien en renforçant encore la disposition de la gratuité?
Le gouvernement devait bien revenir sur son objectif, d'assurer l'éducation pour tous. Le gouvernement, je vais procéder par l'applicabilité des objectifs de l'enseignement. Je sais que le ministère de l'enseignement a ses objectifs, monsieur le journaliste. Et ces objectifs-là ne sont pas mis en application. Si aujourd'hui, là, vous partez dans les écoles de l'État, vous allez vous rendre compte que les parents ne font que payer comme on les fait aussi dans les écoles privées. Alors, si je venais d'être élu député, moi, je souleverai d'abord ces points-là en premier. Sous le système éducatif, le ministère doit revoir ses objectifs et passer par l'applicabilité de ces différents objectifs. Ça, c'était par rapport à, sous le plan éducatif. Alors, sur le plan emploi, c'est là que j'aimerais presque terminer, messieurs les journalistes. Sur le plan emploi, je suis en train de me joindre à l'idée ou bien aux idées de notre première auditrice qui vous appelait presque de Kinshasa. Je commencerai par un petit extrait, un petit exemple que je venais à peine de vivre ici. Bon, pas un exemple, c'est un fait. Je suis professionnel de santé, c'est depuis 2013. J'ai plus d'emploi, j'ai rompu mon contrat que j'avais. Pourquoi? Parce que le salaire était très minime. Et je suis allé dans un nouveau hôpital du gouvernement, ici au Katanga, qu'on a construit, juste pour me renseigner des modalités d'engagement, messieurs les journalistes. Mais curieusement, quand je pose la question, j'ai été surpris d'apprendre que non, monsieur, écoutez, ici pour l'embauche, on n'amène pas les dossiers physiques. Donc, au moins que tu aies quelqu'un au sein du gouvernement, que tu aies une connaissance, un ministre, et qu'on soit occupé, si tu as vraiment ton frère qui travaille dans le gouvernement, qui est ceci, c'est là, on peut bien t'embaucher sans problème. Ici, en tout cas, c'est du haut niveau, si tu n'as pas de connaissances, si tu n'as pas vraiment des parapluies, on ne peut pas t'embaucher. Avec ça, monsieur le journaliste, comment est-ce que les jeunes auront d'emploi? Je suis en train de passer aussi par la suppression des tests et concours que certaines entreprises arrivent à soumettre aux demandeurs d'emploi pour les embauches. J'ai déjà été plusieurs fois dans les différentes entreprises pour passer les concours. Les profils recherchés, les critères demandés, parce que nous les réunissons là-bas. Nous remplissons les listes qu'il faut, nous remplissons les fiches qu'il faut. Et vous allez vous rendre curieusement compte qu'à la fin, les gens qui travaillent là-bas ne viennent de nulle part. Ils n'ont jamais été ensemble avec nous, assistés aux tests des concours d'admission et qu'on sort. Alors, avec ça, là, comment voudriez-vous que le jeune puisse avoir d'emploi? Aujourd'hui, là, j'étais sur Média Congo. Les critères qu'une société arrive à réclamer, beaucoup de jeunes, nous les remplissons. Il y a même certaines sociétés qui partent plus loin en demandant ce que le système éducatif de notre pays n'arrive pas à nous apprendre, nous, en tant que Congolais. Vous nous demandez plus que ce que nous pouvons avoir. Comment les jeunes peuvent travailler?
Donc, si vous étiez candidat et que vous venez d'être élu, vous allez travailler sur ça. Alléger un peu les conditions.
Laissez-moi, je peux finaliser, s'il vous plaît.
Oui, rapidement, parce qu'il y a Mathieu qui vous attend.
Je prends le cas de la SNL. Je prends le cas de toutes les entreprises de l'État. Imaginez-vous la tranche d'âge des travailleurs qui y sont, est-elle qui est comprise entre 50 jusqu'à 70 ans, même voire 80 ans, vous trouvez les gens en train de travailler. Le gouvernement n'arrive pas à mettre les agents à la retraite. Et les jeunes sont là, ils terminent, ils ne savent pas travailler. Pourquoi? Parce que ces vieux-là, ces papas là-bas, continuent toujours à remplir, à inonder ces secteurs là-bas, pendant que les jeunes qui pouvaient
donc, il faut la relance. Il faut assainir.
Les histoires.
Donc il faut assainir, assainir l'administration publique, donner l'avantage aux jeunes d'accéder rapidement à l'emploi. Merci beaucoup. Peut-être renforcer le programme, le projet de la Banque mondiale sur cette question de rajeunissement de l'administration publique, si je comprends bien votre intervention. Merci beaucoup, Gloire, d'avoir appelé de Lubumbashi. Bache, vous êtes à Goma. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Radio Capi. Je salue nos compatriotes qui nous suivent. Par rapport à moi, monsieur le journaliste, malheureusement, je suis pessimiste parce que avec les manœuvres de l'assimilation que la CENI est en train de nous montrer, bon, on n'est pas sûr que si on peut vraiment voir les
bon,
élections.
Bon, sinon, là c'est un autre débat.
Mon point de vue, je dirais que la première des choses pour l'emploi, il faut d'abord aller dans les secteurs qui utilisent une grande haute médiévale. Là, je parle de l'agriculture et la route, les routes. Donc, on doit plus se baser sur l'agriculture, parce que dans l'agriculture, il y a une haute main-d'œuvre qu'on doit utiliser. Et dans le secteur de la route, il y a aussi une grande haute main-d'œuvre qu'on peut utiliser. Et il y a aussi, par exemple, là le chemin de fer. Je pense que le problème de la main-d'œuvre, c'est très capital. Mais c'est journaliste, je peux vous dire que, par exemple, ici à l'Est où nous vivons, presque dans la majorité des gens qui vivent dans les groupes armés, ce sont des gens qui n'ont pas les emplois. Et c'est dommage parce que tu vas voir qu'ils sont là, ils travaillent pour le compte de ces milices, mais c'est juste pour avoir des petites sommes d'argent. Et c'est ce montant-là que ces jeunes gens-là amènent aussi dans leur famille. C'est une chose grave, monsieur le journaliste, nous avons connu un jeune homme qui était dans un groupe armé à Massissi, on lui a posé la question, pourquoi tu es là? Il dit que non, chez nous on n'a pas l'emploi, mon parent il n'est pas mesure de soutenir mon grand frère qui est à Lubumbashi qui étudie. Alors moi j'ai entré ici au niveau des groupes armés, avec l'argent qu'on me donne ici, maintenant je dois payer les minéraux pour mon frère qui est à Lubumbashi. Vous imaginez un peu de telles choses. Il y a des carrières que les enfants, les élèves même, pendant les vacances, ils quittent les territoires, ils partent dans les mines des ors, des minéraux, où les groupes armés utilisent les jeunes gens.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si vous étiez candidat et venez d'être élu, qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Concrètement, d'abord, il faut chercher à créer les emplois qui doivent occuper plusieurs personnes, que ce soit les gens qui sont non qualifiés ou qualifiés. Je dois promouvoir aussi les travaux de l'informel, c'est-à-dire que les gens qui ont les entrepreneurs, on doit les promouvoir, c'est-à-dire que les donner le financement. Parce que ici, nous avons remarqué les FPI qui est là, c'est pour les gens qui sont au pouvoir. Ce n'est pas pour la population. Je pense qu'on doit créer une nouvelle FPI qui va travailler pour l'intérêt de la population. Tu vas promouvoir l'intérêt de la population, créer les emplois, appuyer les gens qui ont des initiatives qui peuvent encore donner des emplois à d'autres personnes.
Merci.
C'est un peu ça qu'il faut faire, parce que sans emploi, même pour accès aux soins, ça sera difficile. Comment quelqu'un peut aller aux soins au moment où il n'a pas l'emploi, il n'a pas l'argent? Moi, je te donne par exemple l'exemple ici, l'hôpital de Goma ici. Seulement 3 jours, vous êtes obligé de payer $100. Vous imaginez? Au moment où il y a les parents qui ne peuvent même pas avoir $50
voilà.
par mois.
Alors, Bathier, parce que vous avez parlé de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur agricole, ben, quand il s'agit de main-d'œuvre qualifiée, il faut penser aux facultés qui devaient former ces jeunes. Et encore faut-il relancer les débats sur comment encourager ces jeunes à embrasser ces filières, parce que bon, au regard de ce qui se présente devant nous, de moins en moins les jeunes s'intéressent à ces secteurs-là. Alors comment les encourager? C'était un vaste chantier pour un candidat, si vous l'y étiez et que vous venez d'être élu. Vous n'estimez pas que c'était un vaste chantier?
C'est vraiment un vaste chantier, monsieur le journaliste. Tu sais que même nos élites sont déjà corrompues. Il faut un état de droit. Vous avez vu vous-même, même à Kinshasa, là, vous voyez les professeurs des universités qui sont corrompus moralement. Donc, je ne sais pas, le gouvernement en place a volé même l'intelligence déjà. Donc, vous
voilà.
Voyez que
merci
même
beaucoup.
Les gens,
merci beaucoup, Bathier. Voilà, merci beaucoup, Bathier.
C'est-à-dire qu'on doit chercher à établir un état de droit.
Merci beaucoup, Bathier, d'avoir appelé. Merci beaucoup, Bathier. 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
à la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Radio Capi vous convie à des balades dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le lundi à 14h15.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. À 10 jours de la tenue des élections combinées présidentielles, législatives nationales et provinciales, la campagne électorale se poursuit à travers le pays. Si vous étiez candidat et venez d'être élu, quelles seraient vos priorités sur la question relative à l'accès à l'emploi et à l'éducation pour tous? Bienvenue, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour messieurs les journalistes. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Les Lapins.
Quelle est votre contribution?
Oui, merci bien pour la thématique qui est très intéressante. Mais moi, je pense que le grand problème aujourd'hui, quand nous parlons surtout de l'éducation, c'est que ça fait plus de 20 ans l'État congolais est démissionnaire et que les autorités académiques qui sont aussi parents comme nous autres en pitié des étudiants. Quand je dis en pitié des étudiants, ils ne veulent pas que l'étudiant qui ne mérite pas puisse reprendre l'année. Il y a des recours après recours, recours après recours. Moi, je pense qu'il faut d'abord assainir le milieu éducatif. Par assainissement, il faut retraiter les personnes qui ont un âge au-delà de 65 ans et rajeunir un peu...
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de bienvenue qui donnait des préalables pour arriver à améliorer l'accès à l'éducation en parlant d'assainir les milieux, les secteurs de l'éducation, notamment en mettant en retraite ceux qui y sont déjà plus avancés en âge et rajeunir au fait les milieux. Merci, bienvenue. Je crois que la réalisation va nous aider à retrouver bienvenue. Madame Honorine, vous êtes à Mouika, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution?
Bon, je suis Bokassanga Kouite Honorine Christine, je suis candidate à la nationale et dans la plateforme AMK, territoire circonscription électorale Moara. Moi, ma contribution, c'est que nous avons dans notre pays des bonnes lois. C'est vrai, des bonnes lois, mais qui ne sont pas appliquées. Moi, ma contribution, c'est que qu'on puisse d'abord commencer par réhabiliter sur tous les plans sociaux. Nous avons par exemple la SNPC, il faut réhabiliter cette société-là de l'État. Il faut réhabiliter les écoles de l'État. Il faut réhabiliter les hôpitaux de l'État et en construire même d'autres. Je crois que c'est ce qui sera d'abord primordial. Il faut d'abord commencer par la réhabilitation. Même sur le plan éducationnel, nous avons des écoles. Mais aujourd'hui, les enseignants ne sont pas bien payés. C'est ce qui fait que l'enseignant n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même. Le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ainsi que vous voyez, la plupart des enseignants sont devenus contacte aujourd'hui de corrompu parce qu'il ne sait pas, lui aussi c'est un parent qui doit envoyer ses enfants à l'école, mais il n'est pas bien payé. Et s'il est payé, c'est à quel taux et c'est quel prix? Vous connaissez vous-même, les fonctionnaires de l'État sont payés au taux de l'État, mais c'est à quel taux? Et sur le marché, nous avons quel taux? Les hôpitaux, maintenant, vous allez pour avoir une fiche, par exemple ici à Mouéka, une fiche à l'hôpital coûte 8 000 francs. Et la population de Mouéka a quel revenu? Il a quel pouvoir d'achat? Il a quoi? Elle a quoi plutôt la population? Donc nous pensons qu'il faut commencer par réhabiliter une société comme la SNCC. Si elle est réhabilitée, ça a un effet d'entraînement. Lorsque ces gens-là sont bien payés, ils seront bien acheter les maniocs qui sont produits par nos mamans, ils seront bien acheter les maïs, ainsi de suite. Vous avez par exemple la société Esoka à Kakenge. Cette société-là qui faisait que Kakenge soit aujourd'hui soit un grand centre à l'époque. Parce que nous avions des avions qui atterrissaient parce qu'ils arrivaient pour la société. Et les véhicules passaient à tout moment, les trains étaient à tout moment. Ce sont ces sociétés-là, entre autres, il y en a plusieurs. Nous avons par exemple la Domiongo, nous avions la Comesaf, qui était l'usine des villes.
vous avez les belles aides à Mapangu. Donc, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses sur le plan social si on essaie seulement de réhabiliter dans un premier temps avant qu'on pense construire d'autres. Ça sera déjà un développement pour le territoire de Moïka. Je crois que c'est en gros, c'est ce qui est important dans un premier
oui,
temps.
Oui, mais sur la question relative à l'accès à l'éducation pour tous, comment vous allez vous y prendre par rapport aux défis qui restent à relever?
Justement, c'est ce que je dis, l'accès à l'éducation à tous, il faut que l'éducation soit gratuite. L'éducation doit être gratuite et c'est ce qui est, la Constitution nous dit même qu'il faut qu'il y ait un accès à l'éducation à tous. Il faut qu'on dise à partir des primaires, que l'éducation soit gratuite, l'école primaire. Parce que ça coûte quoi l'école primaire? Et qu'on réhabilite les écoles de l'État. Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles privées. Et ces écoles privées-là, lorsque vous avez même sur le terrain aujourd'hui, c'est quelle école qui n'a pas de bancs? C'est quelle construction qui sont construites, les écoles construites en chaume, en terre, qui sont écroulées pendant la saison de pluie ici? Vous n'avez pas de route à Mweka, vous ne pouvez même pas rouler, même si sur la moto vous êtes dans l'impossibilité de bien rouler. Bon, mais avec véhicule là, n'en parlons pas. Donc l'accès à tous, à l'éducation, c'est primordial. Lorsqu'on a une éducation, on est instruit, on saura bien travailler pour l'avantage de toute la population de Mweka.
Merci beaucoup, Madame Honorine, d'avoir appelé de Mweka. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour JR, également à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Quelle est votre contribution si vous étiez candidat et venez d'être élu? Quelles seraient vos priorités sur la question relative à l'accès à l'emploi et à l'éducation pour tous?
Merci beaucoup JR. Je commence par le deuxième aspect de l'éducation pour tous. C'est là où il y a les problèmes. Pour que nous ayons des cadres, nous ayons des élites, nous devons avoir un bon enseignement. Aujourd'hui, quel est le problème, JR? Si je suis élu président de la République démocratique du Congo, moi pacifique, je commencerai d'abord par créer des écoles officielles propres à l'État. Ce qui manque aujourd'hui, JR, promenez-vous dans toutes les provinces, il y a combien d'écoles propres de l'État? Il n'y en a pas. Pour parler de la gratuité et l'accès aux études, à tout le monde, il faut avoir ses propres écoles. Il faut créer les écoles. Deuxième élément, je passerai d'abord avec une grande vitesse de supprimer toutes les écoles des inspecteurs actifs ou en fonction comme agents de l'État. Ça crée beaucoup plus de problèmes, ces écoles-là. Et c'est ce qui, aujourd'hui, vous voyez, l'État a abandonné les secteurs, les secteurs de l'enseignement au privé. Et le privé aujourd'hui fixe, JR, les frais scolaires à leur propre guise. Et ils ne sont même pas inquiétés. Vous vous rendez compte? Moi, il y a des leçons que j'avais apprises en premier graduat. Mais aujourd'hui, je vois à l'école primaire, on enseigne aux enfants des matrices. Je dis, mais c'est pas possible ça. Ça, moi. Donc, l'État ne sait même pas contrôler quel est le programme. Vous voyez, JR, c'est ça le vrai problème. Je vais maintenant prendre le problème de l'emploi. Parce que j'ai vu à un certain moment, on a parlé de l'ONEM et tout ça, c'est vrai. Dans l'ONEM, il y a à boire et à manger. Pourquoi on attaque l'ONEM? C'est parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'emploi. Donc, des ONG qui ont besoin de 10 personnes, finalement, on va prendre qui est qui. Les chefs qui est là, qui veut aussi avoir sa part, ne peut que privilégier ses propres intérêts. Moi, en tant que président de la République, je commencerai d'abord par subventionner le Congolais pour qu'il ait la possibilité de créer des industries de transformation afin d'encourager l'entrepreneuriat congolais.
Oui, mais est-ce que Pacifique, vous partagez l'avis que parmi les grands défis à relever aujourd'hui, c'est au fait changer la perception des choses. Les gens ont peut-être une mauvaise conception. Perception des choses par rapport aux filières. Les filières traditionnelles sont beaucoup plus prisées par les jeunes que les filières notamment du secteur agricole qui pourraient au fait diversifier l'économie dans l'avenir.
Exactement, Gilles, c'est là où je venais. Je venais de là, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, si nous avons beaucoup plus de colonnes, c'est parce qu'on ne sait pas que les secteurs agricoles, aujourd'hui, moi, quand j'étudiais en humanité avec les amis, il y en a ceux-là qui avaient opté pour faire l'agronomie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des écoles agronomiques aujourd'hui? Et ça pose des problèmes. Mais même des gens qui avaient terminé ici et là à l'université agronomie, tout ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne voient rien. Pourquoi? C'est parce qu'à un certain moment, l'État est absent. Regardez, JR, quand vous allez tout simplement en Zambie ici, vous allez voir que le gouvernement zambien est en train de subventionner, donner des moyens, de l'argent aux mamans, aux jeunes, tout ça, et il crée des champs, et c'est le même l'État qui vient encore prendre ce produit-là. En ce moment-là, l'État sait quelle est la quantité que ma population doit-elle consommer et quelle est la quantité qui doit sortir. Mais aujourd'hui, quand la Zambie vous dit que la farine ne sortira pas parce que nous n'avons pas produit assez, on dit non, écoutez, la Zambie, ça ce n'est pas le bon voisinage. Non, ce n'est pas ça, au fait. Et pourtant, c'est le problème.
Oui, est-ce que Pacifique, vous partagerez l'avis selon lequel il va falloir fermer certains... une faculté, notamment les droits, l'économie, la médecine et tant d'autres, pour ne favoriser que l'agriculture et les nouvelles technologies?
Tout à fait. Et cela, JR, devait commencer au niveau des secondaires. Ça, c'est au niveau des secondaires que ça devait commencer. Il y a des gens qui ne pouvaient pas aller à l'université. Il finit les études secondaires, tout ça. Il est embauché quelque part. Et c'est là que ça devait nous aider également à encourager la sous-traitance qui créerait encore des classes moyennes. Moi, en tant que président de la République, je pouvais refuser aux sociétés multinationales des services. Nous n'en avons pas besoin en République démocratique du Congo. Nous avons besoin des sociétés multinationales de production. Quand on produit ici, il y a des capitaux qui restent et ça peut encore
nous donner
et nous booster pour que les autres soient également embauchés en créant ceci ou cela et les partenariats privés et en train d'avancer. Mmh. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous avons des multinationales de services. Ils vous amènent seulement des choses. Vous en consommez. Les capitaux rentrent dans leurs filiales. Finalement, qu'est-ce que nous gagnons? J'ai vu quelque chose au Maroc. Ils sont en train de faire des montages de véhicules. J'ai vu quelque chose là encore au Rwanda. Ils sont maintenant là en train de fabriquer des ordinateurs. Vous voyez que tout ça, c'est une question tout simplement de bien prioriser les choses. Pour notre développement, ce ne sont pas seulement les minerais. Vous avez appris que KCC voudrait fermer à Colouésie et tout ça. Et les gens commencent à trembler. Qui sont en train de trembler? Premièrement, les autorités gouvernementales sont en train de trembler. Et pourtant qu'ils pouvaient facilement relancer Kanyama Kassé, c'est le plan des musées. On nous a amené Pressard ici, Gère. Pressard n'a rien fait. Ça a disparu comme la fumée de la cigarette. Vous allez-y comprendre tout ça. Le développement devra commencer par là. La Chine, avec la réforme agraire. Nous voyons aujourd'hui la Chine comme une grande puissance économique mondiale. Et tout le monde est en train d'envier. Mais on ne sait pas que la Chine a commencé par où. Ils ont connu des problèmes. Il fallait que Mao Zedong, à son temps-là, signe et persiste que voici les points de repère. Est-ce que nous avons au moins les points de repère? Moi, je prendrai les experts, parce que nous en avons ici en République démocratique du Congo. Les Congolais sont capables de s'asseoir et de commencer à placer les repères. Nous commençons par où? Dans un premier temps, avec des plans de développement. Je n'aurai pas besoin de plans d'action.
Merci.
De développement.
Merci.
En ce moment-là, nous allons avancer pour notre développement.
Merci beaucoup. Pierre. Merci beaucoup, Pacifique. Si vous étiez candidat et venez d'être élu, pour vous, vous estimez qu'il va falloir changer le partenariat avec les sociétés multinationales qui ne sont que des services. Hein. Voilà, donc nous consommons que ce qui nous amène. Merci beaucoup, Pacifique. Alors lui, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue.
Oui, je...
Quelle est votre contribution, lui?
Bon, moi, je voulais parler de la santé pour tous.
Non, non, on est à l'éducation et à l'emploi. On est à l'éducation et à l'emploi.
Je pouvais aussi glisser quelque chose. Pour l'éducation, je pense que il faut vraiment des réformes sur cette éducation congolaise. Il faut des réformes. Puisque quand on voit les diplômés d'aujourd'hui, on ne comprend pas s'ils peuvent aussi et vraiment défendre leur diplôme. Oui, allô.
Oui, allez-y, 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 Louis.
Oui, je disais, quand on voit les diplômés d'aujourd'hui, que ce soit de l'université ou du secondaire, on ne comprend pas, on ne sait même pas, et puis on ne croit pas que ces diplômés pouvaient défendre leur titre. Alors, il faut des réformes profondes.
Donc, pour vous, vous estimez qu'il va falloir, il va falloir, oui, continuer avec les réformes qui sont déjà engagées par l'État congolais. Merci beaucoup, Louis. Alors, Sylvain, vous êtes à Kinshasa. Si vous étiez candidat et venez d'être élu, quelles seraient vos priorités sur la question relative à l'accès à l'emploi et à l'éducation pour tous, Sylvain? Sylvain, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Sylvain, 09-97-06-6330. Nous allons prendre Madame Nelly qui est avec Kinshasa. Madame Nelly, bonjour.
Bonjour.
Si vous étiez candidate et venez d'être élue, quelles seraient vos priorités sur la question relative à l'accès à l'emploi et à l'éducation pour tous?
Oui, merci. D'abord, je suis Marie-Nelly Sassambungu, élue de la circonscription électorale de la commune de Mongafula. Et je suis élue depuis 2006 comme députée provinciale dans la ville de Kinshasa. J'ai postulé, je voudrais être réélue et succéder à mon propre siège. Dès que je suis élue.
Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire pour résoudre ces grands défis de l'emploi et de l'éducation pour tous la législature passée? Et que vous promettez pour corriger, parce qu'il y a la question de la gratuité que vous n'avez pas pu donner à la population. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, si on vous donnait encore, vous allez y travailler? Qu'est-ce qui reste à faire?
Justement, je voudrais parler d'abord du rôle des députés provinciaux. Nous avons trois rôles à jouer, c'est la représentation de la population, le vote des élus et le contrôle de l'exécutif et des services de l'État au niveau provincial. Pendant ma législature, nous avons ensemble, quoi, nous avons voté quelques édits, nous nous sommes battus dans le cadre social, surtout.
En termes de capacité aujourd'hui, des écoles de l'État dans la ville de Kinshasa, si je prends l'école, par exemple, l'épée de Kabinda, la ville devait déjà récupérer, qui n'a pas pu récupérer.
Je voudrais en arriver.
Oui, rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps, madame.
L'État qui avait parlé de la gratuité
de l'enseignement.
Des frais, oui, des frais dans des écoles primaires surtout. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas senti ça. Alors, je vais me battre.
Mais les contrôles devaient être faits par vous, les députés.
Mais oui, nous faisons les contrôles, c'est pourquoi nous avons à tout moment attaqué le ministre des tutelles. Le ministre des tutelles, nous l'avons toujours attaqué à cause de ça. Malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. Mais mon combat continue pour que je puisse arriver à atteindre mon but.
Merci beaucoup.
C'est la population qui m'envoie.
Merci
alors,
beaucoup.
Dans le cadre de la santé, c'est le socle de la vie de quelqu'un.
Merci beaucoup.
Nous devons multiplier les
efforts. Merci beaucoup, madame. Je crois que le temps nous est parti fait défaut. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Merci de rester avec nous.